De la présidentielle 2012.
Frédéric Barrère.
Retrouvez Jean-François Aguili et ses éditorialistes.
20h, quel duel pour le second tour. Deux visages, deux noms que nous vous dévoilerons.
Directs et reportages, analyses et commentaires.
Et des débats avec nos invités. Joie et déception du soir, quelle consigne de vote, quelle dynamique pour le second tour.
Élection présidentielle, premier tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter. La différence.
Et c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Salut là-bas si j'y suis, salut à tous. Merci beaucoup pour la rediffusion de vendredi dernier sur les lobbies de l'Union Européenne. Le sujet est plus que jamais d'actualité ici avec les ratifications en cours du dernier traité et surtout les réformes en cours de la gouvernance économique de l'Union européenne, c'est-à-dire la coordination des politiques économiques nationales. Vous savez, le parc du rond-point Schuman est toujours aussi pathétique, mais aujourd'hui il y a une grande banderole au-dessus, sur le siège de la Commission européenne, et qui dit « vers une gouvernance économique renforcée ». Pour parler de tout ça, du pouvoir des lobbies, de la crise de l'Union, deux rendez-vous à proposer. Le premier, ce sera jeudi qui vient, le 19 avril à 20h30, au cinéma Vendôme à Bruxelles, avec la diffusion exceptionnelle de The Brussels Business, qui est un film qui revient sur l'histoire conjointe de l'UE et d'un lobby méconnu, la table ronde européenne des industriels. Et ce film explique vraiment beaucoup de choses sur l'état actuel de l'Europe et permet de revenir sur quelques-uns des mythes actuels qui structurent ces institutions. Le deuxième rendez-vous, c'est une conférence de deux jours, organisée par l'ONG que vous avez interviewée, Corporate Europe Observatory, l'Observatoire de l'Europe des entreprises, les 5 et 6 mai prochains à Bruxelles, sur la crise en Europe et l'obsession austéritaire, pour tenter de produire des analyses communes, organiser des résistances et des actions concrètes. Vous avez tous les renseignements que vous pouvez chercher et les inscriptions possibles sur www.corporateeurope.org, Corporate Europe en un seul mot. Voilà, longue vie à l'émission et une belle journée à ses auditeurs. Salut, c'était Martin de Bruxelles.
Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de là-bas si j'y suis. C'est la CGT chômeur du Morbihan qui veut passer un petit message à propos d'un décret d'application qu'on appelle chez nous le décret cadeau d'adieu aux chômeurs, donc de Fillon. Alors, à compter du 1er avril... Les salariés privés d'emploi qui ont l'extrême chance d'être allocataires RSA vont avoir des sanctions financières qui vont passer de 100 euros sur un mois à 80% du RSA sur 3 mois s'ils refusent les emplois pourris. Alors qu'est-ce que c'est les emplois pourris? C'est les contrats aidés, c'est les CDD, c'est les temps partiels, c'est des conditions de travail dont personne ne veut. Donc il y a plein d'informations sur notre site, vous tapez chômeur rebelle sur Google, entre autres en ce moment on est en train de se bagarrer puisqu'il y a une copine qui s'est fait supprimer un mois de RSA par le Conseil Général du Morbihan parce que elle avait osé refuser un chantier d'insertion, donc c'est un contrat aidé pour faire du maraîchage bio loin de chez elle alors que ça correspondait en rien à ses qualifications ni à ses possibilités. Voilà, rejoignez-nous ensemble, on est plus forts.
Moi, je suis apiculteur, j'ai pas eu trop de pertes par rapport aux collègues, j'ai perdu que 25% de mes ruches cet hiver. Alors c'est juste énorme, mais par rapport à certains, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai des potes qui ont perdu 75% de leurs ruches cet hiver. Certainement dû à des intoxications, à des doses sublétales sur les maïs et les tournesols. Voilà. À une heure où pour nous... La seule solution pour s'en sortir, c'est d'arrêter un maximum de pesticides et surtout pas les épandages aériens. Voilà, à une heure où il faut qu'on se calme sur ces cochonneries, le ministère de l'Agriculture en France continue des autorisations complètement hallucinantes. Nous, on est mal, quoi. Les apiculteurs en France, aujourd'hui, on est mal. Mais bon, apparemment, on pèse pas assez lourd sur la balance commerciale parce qu'il se passe rien. Alors, il y a une prise de conscience, mais dans les faits, il se passe rien, quoi. Donc là, moi, je suis fatigué et on n'est que en avril. On a encore toute la saison à gérer. C'est comme ça. Soyez forts et portez-vous bien. C'était Fabrice de la Drôme.
Apiculteur, papy, merci pour tous ces messages. Pas pour tous ces messages, parce que figurez-vous qu'on a eu une panne. pour le récepteur de messages. Voilà, ça c'est reparti ce matin, mais ne soyez pas fâchés si vos messages ne sont pas passés aujourd'hui. Un mot avant de commencer sur l'audience. Tout le monde, à son de trompe depuis ce matin, se réjouit et à juste titre des bons résultats de France Inter. Concernant là-bas, si j'y suis, ça marche bien, c'est stable, même avec une hausse par rapport à l'an passé. Vous êtes 30 000 de plus à nous avoir rejoints en un an. Et selon les enquêtes d'opinion de Médiamétrie, qu'il faut prendre évidemment, amis auditeurs de là-bas, si j'y suis, avec des pincettes et avec tout le recul nécessaire pour apprécier ce qui n'est jamais qu'un résultat chiffré, c'est-à-dire quantitatif, eh bien vous êtes 581 000 à écouter en principe cette émission chaque jour. Et aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va causer ? Eh bien, on va se poser la question qui, je suis sûr, vous brûle les lèvres. Françoise Hardy va-t-elle finir au Resto du Cœur ? François Hollande a beau la rassurer et les rassurer, rien à faire. Les riches ont peur au point que certains déjà prennent le chemin de l'exil et quittent cette France ingrate où ils sont maltraités malgré tous les efforts déployés par Nicolas Sarkozy au cours de ces dernières années pour défendre ses mal-aimés. Du coup, comme ces malheureux Africains qui quittent leur village pour venir vivre ailleurs, sous nos frimas, eh bien, ces Français s'exilent tantôt à Londres, tantôt à Bruxelles, tantôt à Genève, ou là-bas, si j'y suis, vous emmène à leur rencontre aujourd'hui. Et c'est Charlotte Perry qui vous prend par la main pour vous préparer, amis auditeurs, à que faut-il faire ? C'est bien beau de devoir partir, quitter sa patrie, mais comment, par quels moyens, qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté ? À Genève, par exemple, l'histoire, l'accueil, la vie, le lac, le jet d'eau, formidable, le jet d'eau de Genève. Voilà, c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques sans S messages sur le répondeur de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Chers amis des bords de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, chers AMG, lors de notre dernier café repère, nous étions une trentaine. Bravo et merci à tous. Nous vous attendons nombreux pour animer nos discussions pour notre prochaine soirée qui aura lieu le jeudi 19 avril à 20h30 au café Le Mathélème à La Varenne. Au programme, débat sur la politique économique avec la participation d'un enseignant-chercheur en économie, également signataire du manifeste des économistes atterrés. L'objectif de cette soirée est de mettre en débat la politique économique, de comprendre les combats idéologiques qui sont en cours en ce moment chez les économistes et aussi entre les économistes et les responsables politiques. À jeudi prochain donc, le jeudi 19 avril à 20h30, au café Le Mathélème à La Varenne, tout près de Nantes. Bonne journée.
Bon, et ben on est lundi matin et je me trouve gare de Lyon, face au quai d'où partent les trains en direction de Genève, en Suisse. Et je me trouve ici parce que je prépare un reportage sur les exilés fiscaux.
Si vous aimez le bling-bling, il faut rester sur la Côte d'Azur, hein, parce qu'alors ici, vous n'aurez pas de public. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place ici pour les matus vus, donc il n'y a pas vraiment de yacht hein, ici. Donc c'est plutôt des bateaux à voile, si vous voulez. Les gens ont des bateaux à voile.
Accueillir l'argent du persécuté est un devoir que Dieu ordonne aux banquiers. Et c'est de là que prend naissance cette mentalité du secret bancaire.
Et là, on a cette impression de transcendance en voyant la cime enneigée et le ciel au-dessus. et c'est quelque chose qui a un effet très apaisant sur l'âme.
La classe dirigeante genoise, qui est totalement corrompue par les banquiers, totalement infiltrée par les banquiers, opère un sabotage de la France permanent.
Je pense qu'un jour, peut-être, les Français édifieront des haies de barbelés autour du pays pour empêcher les contribuables de quitter le paradis socialiste.
Monsieur, bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV Lyria numéro 9773 à destination de Genève.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis. Avec Charlotte Perry, les exilés fiscaux ou les martyrs du fisc français.
Me voici arrivée à Genève. Genève, donc, qui est à l'extrême pointe du lac Léman, à quelques kilomètres seulement de la frontière française, qui est bien connue pour son horlogerie de luxe, mais également pour concentrer un nombre incroyable de banques et de sièges sociaux de multinationales, ainsi qu'un nombre impressionnant de Français venus se réfugier contre la guerre économique qui aurait livré en France. Et c'est donc tout naturellement ici, à Genève, que je démarre mon périple à travers la Suisse sur les traces de ces fameux exilés fiscaux, qui ont donc quitté la France pour échapper à l'impôt. Alors en 2007, ils étaient déjà 719 contribuables redevables de l'ISF, qui sont partis vers des cieux fiscalement plus cléments. Et en 2008, alors que le bouclier fiscal avait déjà été mis en place par Nicolas Sarkozy, entre autres pour faire revenir ces fameux exilés fiscaux, eh bien, ils étaient encore 821 à quitter la France. Alors, eh bien, je suis venue jusqu'en Suisse, jusqu'à Genève, pour rencontrer certaines de ces grosses fortunes, certains de ces réfugiés fiscaux, qui sont déjà établis en Suisse. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, il y a 150 000 résidents français. Alors, évidemment, tous ne sont pas partis pour des raisons fiscales. Il y en a qui sont partis simplement pour des raisons professionnelles. Mais sur les 5500 personnes très fortunées qui bénéficient du fameux forfait fiscal suisse, qui permet donc aux riches résidents étrangers de négocier le montant de leurs impôts avec les autorités suisses, et bien sur ces 5500 personnes très fortunées, 2000, donc presque la moitié, sont françaises. Alors récemment, le célèbre magazine économique suisse Bilan, un peu l'équivalent de notre challenge français, a publié sa liste annuelle des 300 plus grosses fortunes de Suisse, où l'on retrouve 44 exilés fiscaux français, dont deux nouveaux arrivants. Et le patrimoine cumulé de ces 44 très grosses fortunes est estimé à environ 30 milliards d'euros. Alors parmi ces 44 exilés fiscaux, il y a la famille Wertheimer, propriétaire de Chanel, la famille Peugeot, la famille Castel, la famille Bic, la famille Fournier, propriétaire de Carrefour, également monsieur Paul Dubrul, cofondateur du groupe Accor, le plus gros groupe hôtelier d'Europe. Alors c'est vrai qu'en ces temps de disette économique, où on demande aux chômeurs, aux salariés et aux retraités de se serrer toujours plus la ceinture pour faire face à la dette, eh bien les exilés fiscaux font mauvaise figure. Et les hommes politiques de tous bords ont promis de les pourchasser pour qu'ils s'acquittent de l'impôt à hauteur de ce qu'ils auraient dû payer en France. Même Nicolas Sarkozy, pourtant l'ami des riches, a repris cette idée, piquée d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez pris des risques tout au long de votre existence. Vous avez donné du travail à des tas de gens, des employés, des salariés, des domestiques. Et puis, il faut le reconnaître, vous avez du talent. Mais ce n'est pas reconnu, votre talent. De même, le bien que vous faites, charité, ONG, fondation, mécénat, tout ça, n'est pas reconnu. Et même votre désir de... Finalement, pour donner un peu de sens à votre existence, de laisser quelque chose à vos enfants, tout ça est de moins en moins reconnu dans ce pays en forme d'hexagone où l'on s'adonne si souvent à la haine des riches. Vous pensez parfois, effectivement, à vous exiler. Oh, ce n'est pas facile, parce qu'évidemment, vous êtes attaché, comme chacun, à votre patrie, mais que voulez-vous, tant d'ingratitude. Et on vient de le dire, même Nicolas Sarkozy, pourtant un ami, a pris des mesures bien désagréables. Et dans ces conditions, eh bien, on rejoindra la route de ceux de 1789, de ceux de 1980 également, qui redoutaient l'arrivée des chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Et l'on prendra le chemin, pour les uns de Bruxelles, pour les autres de Londres, ou bien comme ici en Suisse, à Genève ou à Bruxelles. Voilà, les exilés fiscaux vont-ils fuir notre pays? C'est une grande question et une menace. Pensez-y. Amis électeurs, dimanche, pensez-y en mettant votre bulletin dans l'urne. Et n'oubliez pas que des estimations évalue en effet à quelques 50 à 80 milliards d'euros, c'est pas très précis, 80 milliards d'euros par an, le montant des pertes de recettes fiscales et sociales dues à la fraude. C'est une somme qu'on peut rapprocher des 80 milliards d'euros du déficit français de 2012. Il y aurait comme un système de vase communicant qui donnerait raison à un certain Hugo Victor, qui dans Les Misérables disait « C'est l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. » L'évasion fiscale, le martyr des riches français, c'est jusqu'à 16h, c'est la Bassigisson.
Voilà, là je me trouve sur la jetée des Pâquis, à Genève. Je vais me rendre à la buvette des bains du Pâquis, où Monsieur Jean Ziegler m'a donné rendez-vous. Alors les bains du Pâquis, c'est un endroit tout à fait magnifique, merveilleux, où il y a des bains turcs, on peut se baigner dans le lac Léman, on peut se reposer au soleil, on peut voir les montagnes. Absolument splendide. Et donc on va aller rencontrer Monsieur Jean Ziegler. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont certains lui ont valu des procès et le titre d'homme le plus détesté des banquiers de Suisse. Et aujourd'hui, on va revenir avec lui sur l'histoire du plus ancien paradis fiscal qu'est la Suisse et de cette tradition d'accueil des étrangers persécuté. Alors là, on va arriver au bout de la jetée des Paquis, où se trouve la buvette. C'est plein à craquer, et c'est très très sympathique.
Je suis citoyen de Genève. J'adore cette république. Je suis honteux de la pratique de pillage et de complicité avec les pilleurs de l'économie française. Cette pratique de pillage qui est mise en œuvre par les banquiers helvétiques et notamment les banquiers genois, les banquiers privés genois d'origine calviniste. J'ai été pendant longtemps député élu de la République de Genève au Parlement de la Confédération, professeur évidemment à l'Université de Genève. Je viens de publier un livre qui s'appelle « Destruction massive, géopolitique de la faim ». C'est mon livre qui vient de sortir maintenant aux éditions du Seuil. Et avant, j'ai avec beaucoup d'autres mené le combat évidemment contre le secret bancaire, contre la prédation fiscale, contre les prédateurs qui ravagent l'économie française par l'évasion fiscale avec la complicité des banquiers helvétiques. J'ai publié « La Suisse lave plus blanc »,« La Suisse, l'or et les morts », une Suisse au-dessus de tout soupçon, qui m'ont valu des procès de la part des banquiers, la levée de mon immunité parlementaire, des condamnations à plus de 6 millions de francs suisses, c'est 5 millions d'euros que j'ai jamais pu payer pour dommages et intérêts que j'aurais dû payer aux banquiers, aux différents instituts financiers. Maintenant, je suis vice-président du Conseil consultatif des droits de l'homme des Nations Unies, donc j'ai de nouveau, depuis 10 ans, une immunité qui me permet de faire des interviews comme celle-là en totale liberté, puisque je suis protégé maintenant par l'immunité des Nations Unies.
On se trouve à la buvette des Bains du Paquis.
Oui.
C'est un endroit vraiment magnifique.
C'est l'endroit le plus populaire et le plus magnifique de Genève. C'est l'entrée du port de Genève. Et un mouvement populaire a obtenu que les bains publics reviennent à la ville, soient maintenus. Et voilà, et c'est le lieu où il y a un bistrot très très bon et où il y a les bains publics dans la rade de Genève. Vous voyez là tous les hôtels de luxe, le Kempinski, le Beau Rivage, l'hôtel des Bergues, etc. Tous ces hôtels voulaient accaparer, privatiser ces bains pour leur clientèle avec un piscine de luxe, etc., etc. Et vraiment un mouvement de quartier, ce quartier s'appelle les Paquis, on dit non, ces bains sont depuis le Moyen-Âge des biens publics, ils doivent rester publics, et finalement la ville a cédé et a rénové ces bains qui aujourd'hui sont un lieu de rencontre tout à fait formidable. D'abord c'est gratuit, ce qui est rare en Suisse, et notamment à Genève où tout est payant, hein, où l'argent est roi, ravage les consciences. Là c'est des bains publics avec une buvette, avec des prix tout à fait abordables, tenus par une coopérative. Et voilà, c'est là, au cœur de ces bains publics, les bains des Paquis, que nous sommes au pied du jet d'eau de 110 mètres de hauteur, qui est le symbole de la Genève populaire.
La Suisse est très séduisante, et pas seulement pour ses paysages.
Voilà, Genève au Paquis avec Jean Ziegler pour évoquer cette histoire d'évasion fiscale. Le plus ancien paradis fiscal, nous dit Jean Ziegler à propos de Genève. Et évidemment, ces histoires d'artistes ou de riches personnes ou familles qui s'exilent en Suisse pour ne pas payer leurs impôts. On s'en amuse, on sourit. C'est pas bien, mais enfin, que voulez-vous, hein? Si on était à leur place, on ferait sans doute la même chose. Bon, c'est ainsi, ça a toujours été comme ça, etc. Oui, enfin, sauf si on se pose la question du détriment. Oui ou non, y a-t-il un détriment dans ce manque à gagner, dans ce manque à rentrer dans les caisses de l'État? On parle de la crise de la dette. Il se pourrait bien qu'il y ait avant tout une crise de la recette. Et lorsqu'on est dans un endroit comme Genève, avec Jean Ziegler, on va voir qu'il y a une histoire à ce paradis fiscal. Ce paradis fiscal a une histoire longue. Et si jamais vous devez, pauvres auditeurs riches, vous exiler là-bas, c'est pas mal d'apprendre des choses sur l'histoire, au moins pour avoir l'air, pour avoir un peu de conversation. Et ne pas oublier que accueillir l'argent du persécuté, c'est le devoir que Dieu impose aux banquiers. Jean Ziegler.
Genève, c'est compliqué. Hein. D'abord, c'est la première république bourgeoise de toute l'histoire de l'Europe en 1536. Grâce à l'insurrection conduite par Jean Calvin, la Genève réformée, donc cette ville qui était une ville d'empire sous le prince-évêque qui était toujours de la maison régnante de Savoie, donc une ville féodale, 1536, on a chassé le prince-évêque, on a chassé les Savoyards, et Genève s'est constituée en première république 1536. Depuis 1536, c'est une république, elle n'est pas énorme. Elle est rentrée d'ailleurs très très tard dans la Confédération helvétique, 1815 seulement. Et cette république a aujourd'hui un peu moins que de 400 000 habitants, ce qui n'est pas beaucoup, hein, ce qui est une banlieue parisienne. Et un territoire aussi assez limité de 247 km². Elle est bordée d'un côté par la Haute-Savoie, de l'autre côté par le département de l'Ain, le pays de Gex, et la frontière avec la Suisse est que de 5 km de largeur. Et cette république, elle s'appelle République et canton de Genève. D'abord, c'est la République de Genève, semi-indépendante, et en même temps, membre de la Confédération helvétique, canton de Genève. Et c'est la quatrième place financière du monde, puisque les banquiers calvinistes ici, les banquiers privés calvinistes, eh bien, depuis en tout cas la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de tolérance que le roi Soleil, Louis XIV, sous l'influence de sa dernière maîtresse Bigote, Madame de Maintenant, a révoqué. Vous savez que Henri IV, en 1598, Henri IV a proclamé l'édit de Nantes, l'édit de tolérance qui a mis fin en France aux guerres de religion et qui a donné des droits de culte, d'expression, etc. aux protestants. Cet édit de tolérance, qui était une chose formidable que Henri IV a instauré pour mettre fin au massacre entre catholiques et protestants en France, a été révoqué, cet édit de tolérance, presque 100 ans plus tard, en 1685, par Louis XIV. Et les guerres de religion ont repris. Et c'est à ce moment-là que s'est constitué ce qu'on appelle le refuge, que les bourgeois, parce que le protestantisme avait, dans les classes moyennes, bourgeoises, dans les parlements de France, etc., pris racine. Et pour échapper aux dragonnades, aux persécutions par Louis XIV, ces protestants, ces classes aisées protestantes, se sont réfugiés à Genève. Toute l'horlogerie genoise, la banque genoise prend racine à ce moment-là, fin XVIIe siècle, dans cette république de Genève. Et elle est devenue rapidement extraordinairement prospère. Là est née d'ailleurs la mentalité du secret bancaire, puisque accueillir le capital en fuite et ses détenteurs qui fuyaient le roi qui était l'antéchrist, évidemment, pour les protestants, le roi catholique qui envoyait ses armées pour exterminer les protestants. Une partie des protestants s'est réfugiée dans les Cévennes, ce qu'on appelait le désert, après, à résister les armes à la main. Une autre partie, celle plus riche, s'est réfugiée à Genève. Et c'est de là que prend naissance cette mentalité du secret bancaire, c'est-à-dire il faut accueillir l'argent du persécuté, qui est agréable à Dieu. Accueillir l'argent du persécuté est un devoir que Dieu ordonne aux banquiers. Et c'est de là que cette mentalité genoise de garder le capital en fuite, de le couvrir du secret et d'accueillir le fuyard avec ses capitaux s'enracine. Aujourd'hui, c'est de la pure hypocrisie. Évidemment, ceux qui se réfugient à Genève, ce ne sont plus des protestants persécutés par des rois anathèmes, par des rois français, ennemis de Dieu, parce que catholique, mais ce sont les dictateurs du tiers-monde, c'est l'argent de la mafia et du crime organisé, et surtout l'argent de l'évasion fiscale de Mme Bettencourt et de toute l'oligarchie française qui, au lieu de payer des impôts en France, s'abrite derrière le secret bancaire et planque 600 milliards selon les calculs et les preuves apportées par Antoine Peillon dans un extraordinaire livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil. 600 milliards d'euros ont échappé au fisc français grâce aux banquiers genois qui ont ce qu'on appelle les charges de mission en France, qui organisent le transfert. Et ensuite, une fois que l'argent est sur les comptes des banquiers privés calvinistes genois, eh bien, il échappe définitivement, à cause du mur du secret bancaire, définitivement au fisc français. Et ceux qui payent des impôts en France, c'est les travailleurs, c'est les salariés, etc. Mais les très riches ont leur argent à Genève.
Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net? À toujours tout faire pour les riches, on est juste un pays qui triche. On est juste un pays qui triche. Quelques cabanons barbelés du côté de l'aéroport. On n'a pas mis les miradors, mais il faut sortir pour pisser.
Les étrangers qui ont du pognon, ils ont le quai Gustave Adore. Secret bancaire, baignoire en or, inscrit dans la Constitution.
Comment faire un pays heureux en étant si peu chaleureux? C'est bien joli un pays vert, mais pas tant qu'un pays ouvert. Comment faire un pays honnête en étant juste à moitié net? À toujours tout faire pour les riches, on est juste un pays qui triche. On est juste un pays qui triche.
Le Zoom de France Info aujourd'hui sur les riches, les très très riches, et sur la tentation de l'exil qui les chatouille à l'approche de la présidentielle.
France Info, 21 février 2012.
Les grandes fortunes françaises ont-elles peur d'une possible victoire de François Hollande? Est-ce que, comme en 81, l'éventuelle arrivée de la gauche au pouvoir fait fuir les plus riches?
Eh bien, c'est Serge Dassault qui a mis le sujet sur la table il y a quelques jours en affirmant que si François Hollande est élu, des milliers d'industriels quitteront le pays. Au-delà de la provocation, des gestionnaires de patrimoine constatent que depuis quelques mois, le rythme des expatriations pour raisons fiscales s'est accéléré. Il faut rappeler que s'installer à l'étranger, en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, même si c'est pour payer moins d'impôts, c'est tout à fait légal.
Bon, alors là, je me trouve à Lausanne, dans le quartier Saint-François. Je monte la rue du Petit Chêne, qui est une rue qui monte vraiment à pic, à pic, à pic. Et je continue mon enquête sur les traces des riches Français exilés fiscaux ou de ceux qui souhaitent s'exiler à l'approche des élections présidentielles et qui préfèrent venir s'installer en Suisse, là où la fiscalité est beaucoup plus douce et où les gens ne sont pas animés d'une jalousie anti-riche. Et donc je vais aller retrouver monsieur François Michelou, qui est conseiller financier à Lausanne et qui, lui, s'occupe de livrer la Suisse clé en main à tous ces riches qui veulent s'exiler. Monsieur Michelou leur trouve un logement, une école, il s'occupe même de faire rapatrier leur voiture et de leur installer l'électricité. Bref, il livre tout aux petits soins pour ces persécutés du fisc français. Waouh, il y a une ferrière immense.
Bonjour.
Bonjour, je suis Charlotte Perry.
Oui, je vous laisse juste appuyer sur la poignée.
Ah, merci.
Bonjour,
monsieur.
Vous êtes toute jeune.
François Michelot, je suis propriétaire du cabinet de conseil Michelot et compagnie à Lausanne.
Donc là, on se trouve dans votre bureau. C'est un immeuble vraiment magnifique qui surplombe la ville.
Oui, et d'ailleurs un immeuble qui a été construit par des émigrés français, qui étaient des Huguenots, une famille de Huguenots, les Merciers, qui sont venus chercher refuge ici après la révocation de l'édit de Nantes en Suisse et qui ont amené l'industrie de la tannerie, qui ont développé l'industrie de la tannerie à Lausanne. Et la dernière génération qui a été, disons, des capitaines d'industrie, on peut dire comme ça, ont construit le château d'Ouchy et le bâtiment dans lequel j'ai mon bureau qui s'appelle la Maison Mercier.
Donc c'était tout trouvé pour vous.
Voilà, ben c'est bien tombé, effectivement. On essaie de rendre à ces Français ce qu'ils nous ont donné.
Voilà, il ne s'agit pas seulement d'aller planquer ces cacahuètes derrière la frontière pour pas qu'on vous les pique en France. C'est pas aussi vulgaire que ça. Non, vous avez vu, il y a une histoire, il y a une culture, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-vivre que vous découvrirez quand vous exilerez, contraint et forcé, et peut-être que vous rencontrerez François Michelot, prêt à vous aider.
Alors, vous, votre rôle exactement, c'est quoi ?
Alors, nous, on offre aux Français qui s'installent ici sans activité, c'est-à-dire des gens qui se retirent fortune faite, on leur offre un service clé en main pour obtenir permis de séjour, pour organiser leur fiscalité, leurs investissements ici en Suisse, de manière à ce qu'ils puissent s'installer dans des conditions de parfaite commodité. Les premiers clients qu'on peut voir, ils ont peut-être une fortune d'environ 1 million d'euros.
Et alors du coup, vous vous occupez de négocier ce fameux forfait fiscal suisse qui est vraiment une spécificité
Voilà. Alors effectivement, vous avez des Français qui s'installent ici en Suisse avec le régime d'imposition ordinaire, donc ils payent des impôts comme un Suisse. Et on a également, parmi ceux qui sont les plus fortunés, des gens qui s'installent avec le régime d'imposition au forfait. Et principalement, le critère principal, c'est la valeur du logement.
Donc plus on a un petit logement, moins on paye.
Voilà, ça pousse à la parcimonie, effectivement. Vous verrez rarement des Français ici qui habitent dans des immenses manoirs, qui ont un golf de 18 trous dans leur jardin. Ça est très, très rare. Hein. Donc, on parle de 2000 Français qui sont installés en Suisse au forfait. Alors, je dirais depuis environ 18 mois, on a vu un triplement, non pas simplement des demandes d'information, mais des Français qui s'installent en Suisse. Il y a un nombre de facteurs concordants qui vont tous dans la même direction, qui font que les Français, les gros contribuables qui sont nos clients, décident finalement que hors de la Suisse, point de salut, ou en tout cas que en France, disons, la situation fiscalement, en tout cas pour eux, va se détériorer, ne peut que se détériorer, et d'ailleurs, quelle que soit l'issue des élections présidentielles. Que ce soit un président de gauche, évidemment, mais même un président de droite qui reviendrait, de toute façon, ils vont devoir passer à la caisse, de toute façon, le taux effectif d'impôt qu'ils payent va augmenter. Je pense que la source principale de ces motivations qui poussent ces gens à quitter la France, c'est un pessimisme quant à la situation budgétaire de l'État français, qui est, comme beaucoup d'États européens, mis au pied du mur par l'augmentation des taux d'intérêt et qui donc ne peut plus maintenant repousser au calende grec l'assainissement de son déficit budgétaire. Cet assainissement ne peut passer en France que par une variable d'ajustement, je pense. En tout cas, c'est l'analyse qui est faite par mes clients, à savoir l'augmentation des prélèvements obligatoires sur les gros patrimoines. On ne peut pas augmenter les impôts sur les pauvres gens qui gagnent que le SMIC, donc ça va être les riches qui vont passer à la caisse.
Mais est-ce que quand ils viennent vous voir, ils expriment une sorte de culpabilité ou de honte de un peu quitter le bateau quand il est en train de couler, quoi ?
Alors, absolument jamais. Je crois que là, on est vraiment dans un fantasme collectif qui doit, à mon avis, trouver sa source dans la Révolution française, où on avait une classe, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous représente, une classe de nantis qui étaient les aristocrates, qui ne faisaient rien, qui paraissaient, qui vivaient très bien pendant que le peuple crevait la misère, et qu'en fait, la Révolution française les a chassés, a confisqué leurs biens, et on a fait des listes d'émigrés, ces aristocrates qui s'étaient réfugiés, qui en Suisse, qui en Belgique, qui en Angleterre. On a confisqué leurs biens, on les a condamnés à mort par contumace. Et je crois que dans cette mentalité-là révolutionnaire, qui est encore bien vivante en France, les gens ont tendance à projeter leur leur déplaisir de voir les meilleurs du pays, les plus riches, les gens qui sont les plus connus, quitter la France et se disent ils doivent être coupables. Mais moi, j'ai jamais vu, en 13 ans que je fais ça, un client qui était coupable. Ils sont plutôt écœurés. Ils ont l'impression d'avoir payé des millions d'impôts, de charges sociales chaque année pendant 20 ans, 30 ans. Et puis qu'à la fin, on leur crache au visage en les accusant d'être des profiteurs. Donc quand ils partent, ils en ont plutôt ras-le-bol qu'autre chose.
On va faire un tour dans Lausanne. Donc là, on va où exactement ?
Alors là, on descend au bord du lac à Ouchy, qui était c'était un village séparé de Lausanne, jusque, je crois, à la fin du 19e siècle. Vous aviez Lausanne sur la colline, des vignes en cascade, et puis le petit port de Ouchy. Et ensuite, la ville, l'agglomération a grandi et s'est développée jusqu'à Ouchy, pour englober Ouchy. Alors, on arrive à la gare. Ouais.
Lausanne gare.
On sent que c'est en pente là.
Alors justement, c'est à la fois la chance et le malheur des Lausannois, c'est que la ville est vraiment sur une pente extrêmement raide qui va vers le lac. Et donc entre le bas de la ville et le haut de la ville, vous avez, sauf erreur, quelque chose comme 200 mètres de différence d'altitude. Et donc si pour les touristes qui ne connaissent pas la ville, qui ne connaissent pas les nombreux tunnels, escalators, bus, métro, eh ben, ils ont toujours le souffle court. Hein.
Déjà pour venir vous voir, il y a une belle pente, la rue du Petit Chêne là.
J'ai toujours pensé qu'un jour j'aurai un client qui sort du TGV et qui aura une crise cardiaque en montant. Alors parmi les gens qui ont trouvé refuge en Suisse, on a évidemment Voltaire qui est venu 2 ans, qui a habité dans la rue où j'ai mon bureau, on est passé tout à l'heure, avant de trouver son domaine à Ferney. Ferney qui est en France évidemment, qui est devenu Ferney-Voltaire. Mais avant ça, il a vécu, disons, dans la rue du Grand Chêne à Lausanne. Et il a eu ce mot, il a dit... Si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, suivez-le, il y a de l'argent à faire. Voilà, on va arriver maintenant à Ouchy. Voilà.
Terminus de la ligne.
C'est ça. Plus loin, on est dans l'eau.
Là, on s'approche du lac. C'est beau là, on voit la montagne se dessiner derrière la brume, avec les sommets encore enneigés.
Victor Hugo est venu ici à Lausanne et a écrit une lettre à un ami dans laquelle il décrivait la ville et il disait on voit le lac, au-dessus du lac les montagnes et au-dessus des montagnes les nuages, au-dessus des nuages Dieu. Mais je pense que même bon, des gens de foi ou sans foi ont quand même un sentiment d'élévation de l'âme en voyant ce paysage, parce que comme vous voyez là, vous avez comme un miroir d'eau lisse qui va jusqu'à la base des montagnes, et comme il y a un tout petit peu de brume, là, on ne voit pas exactement où finit le lac et où commence la montagne. Et donc l'œil très naturellement s'élève jusqu'à la cime, et là on a cette impression de transcendance en voyant la cime enneigée et le ciel au-dessus. Et c'est quelque chose qui a un effet très apaisant sur l'âme. Et je dois dire que les gens qui viennent habiter ici, quand ils ont vu une fois la vue sur le lac Léman, telle qu'on la voit là devant nous, eh bien, forcément, ils veulent s'installer dans un appartement, acheter une maison qui a la vue sur le lac. C'est le facteur qui fait le prix d'un logement ici autour. Alors, Dieu merci, le glacier du Rhône, quand il s'est retiré il y a 10 000 ans, a bien fait les choses parce qu'il a fait des pentes bien pentues. Et donc, il y a de la place pour tout le monde, comme dans un amphithéâtre, si vous voulez. Vous avez des maisons en bas, plus haut. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont la vue sur le lac. C'est pas du tout un privilège de milliardaire. Vous pouvez avoir des appartements à partir de peut-être 1 million d'euros, un petit peu plus, qui auraient une belle vue sur le lac. Vous avez évidemment aussi des maisons. Alors là, les Français vont acheter des maisons plutôt, je dirais, entre 2 et 4 millions d'euros, quoi. Donc c'est des maisons évidemment de luxe, hein, j'entends, on est d'accord. Mais disons, c'est pas non plus les maisons les plus extravagantes qu'on voyait sur le marché. Et alors le top, si vous m'excusez cette expression, c'est d'avoir l'accès direct au lac et exclusif. Donc le port privé.
Ah, ça existe ça ?
Ah oui, ça existe. Mais alors malheureusement, c'est très rare. Et c'est quelque chose qui a des prix qui sont complètement extravagants. Ouais, extravagants.
Mais alors, dans ce cas-là, on peut venir garer son yacht ou, je ne sais pas si on dit garer pour un bateau,
on n'a pas
accosté.
Non, non, non. Le lac Léman est modeste et
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place ici pour les matus vus, donc il n'y a pas vraiment de yacht hein, ici. Donc c'est plutôt des bateaux à voile, si vous voulez. Les gens ont des bateaux à voile. Si vous aimez le bling-bling, il faut rester sur la Côte d'Azur, hein, parce qu'alors ici, vous n'aurez pas de public. Hein. Il y a plus de Rolls-Royce, je crois, autour dans le canton de Vaud que dans toute la France. Donc si vous voulez, c'est pas quelque chose de rare. Et puis, le fait d'avoir de l'argent et puis de le montrer, c'est considéré comme peut-être un peu vulgaire, si vous voulez. Plutôt un peu comme une tare morale que quelque chose qui soit enviable. Donc je pense que les gens qui vivent pour paraître trouvent pas leur compte, si vous voulez, dans un milieu comme ça. Donc à un moment, ça les intéresse pas et ils vont plutôt aller, je sais pas si la Côte d'Azur c'est juste, hein, mais je pense que la Côte d'Azur, ils se paieront mieux. Quitte à payer plus d'impôts.
Le chalet que vous avez fait construire en Suisse, plus la belle propriété aux États-Unis.
Je n'ai pas fait construire un chalet en Suisse.
25 mars 2011.
Non, j'ai fait rénover un chalet qui est tombé en ruine.
Ah oui, d'accord, c'est différent.
Johnny Hallyday.
Et est-ce que c'est à cause des impôts sur la France?
Oui.
C'est clair.
Je suis très honnête avec ça.
On vous soupçonne donc d'évasion fiscale. Qu'en est-il vraiment?
Ben rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas de fraude, etc. On a des contrôles fiscaux, c'est tout. Alors c'est vrai, l'État est d'accord sur certaines choses, pas sur d'autres choses. Alors après, on se bat parce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Mais il n'y a rien d'illégal. Hein. Tout est net sur le papier. Là.
Combien de personnes, combien de Français, par exemple, l'année dernière, ou depuis ce début d'année, sont venus s'installer en Suisse, en tout cas en faisant appel à vous?
Oh bah, vous voyez, on est une toute petite société, hein, donc nous, des Français, si on en a beaucoup, on en fait peut-être une famille par semaine, vous voyez.
Mais quand même.
Ouais. Oh bah oui, pour nous, c'est tout à fait satisfaisant, mais enfin, ça reste quand même des quantités qui sont petites. Hein. On a 2000 Français au forfait, hein, donc j'ai vérifié ça. 2000 Français au forfait en Suisse, ça c'est le stock, c'est tous ceux qui sont déjà installés, mais même des gens qui se sont installés il y a 30 ans. Donc ça reste des quantités qui sont quand même assez réduites. Hein. Mais cet asile, si vous voulez, ces installations de riches Français en Suisse s'inscrivent dans une très longue tradition qui a commencé évidemment avec l'exil des Huguenots. Et je pense que la comparaison est fondée parce que ces Huguenots, c'était des gens qui étaient au sommet de la société, c'était des industriels, c'était des gens qui étaient plutôt assez brillants. Et quand la France les a chassés, vous pensez à la Saint-Barthélemy, vous comprenez les circonstances auxquelles je fais référence, eh bien en Suisse, ils ont été accueillis dans les cantons protestants et ils ont amené avec eux l'industrie horlogère et une partie de l'industrie de la banque. Et donc ça a été évidemment quelque chose d'extrêmement positif sur le long terme pour la Suisse.
Enfin, la situation est quand même très différente, on n'en est pas à la Saint-Barthélemy.
Ben, pas encore. Enfin, je pense qu'un jour, peut-être, les Français édifieront des haies barbelées autour du pays pour empêcher les contribuables de quitter le paradis socialiste.
Vous pensez qu'il y a une guerre des classes qui continue en France ?
Ben, disons, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que quand on est riche en France, on vous montre du doigt et on vous reproche votre fortune. Hein. Je crois qu'en France, vous avez 50% de la population qui ne paye pas d'impôts. Donc les gens qui gagnent le moins. Donc évidemment, le reste paye pour les autres. Donc si vous êtes tout au sommet de la distribution du revenu, peut-être vous payez pour 100 ou 200 de vos compatriotes, si vous voulez. Donc de le faire et puis qu'il y ait une certaine reconnaissance ou à la limite qu'on vous laisse en paix, c'est une chose. Mais d'avoir le sentiment qu'on vous crache encore au visage en vous reprochant et en vous harcelant, à un moment, je pense qu'on peut comprendre que les gens en aient assez hein, et décident de partir.
Mais comment faire? Allons-nous faire? Belgique, Espagne ou Angleterre? Algérie, Écosse ou Mali? Égypte, Irlande ou Laponie?
On va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crus et la peste et le choléra. La comédie triomphera. Restons donc dans notre gourbie et répandons le rire ici avec nos clowns et nos clodos et nos musiciens du monde.
avec mon chat et mon long manteau d'alpaca vers les beaux Noël éternels. Mon beau chocolat caramel.
Mais comment faire?
C'est vrai que la France, qui est en crise économique, ceux qui payent des impôts, les travailleurs, les salariés, etc., payent des impôts, alors que les très riches, grâce aux banques suisses, ils ne payent rien, puisque l'aviation fiscale...
Jean Ziegler.
...a des business les plus juteuses des banquiers calvinistes, par deux façons. Une, par l'évasion fiscale classique, on va chercher l'argent, on fait des transferts, et l'argent disparaît derrière le mur du secret bancaire... Et le fisc français ne peut rien faire du tout. Bon, la deuxième méthode, c'est le forfait fiscal. On accueille des fuyeurs du fisc physiquement. Johnny Holiday ou beaucoup d'autres peu connus qui prennent fictivement domicile en Suisse tout en travaillant à Paris, en restant dans le lieu habituel de résidence sur la Côte d'Azur, mais fictivement ils prennent un domicile en Suisse, ils louent un studio et leur avocat négocie avec les cantons, les gouvernements cantonaux. Vous savez que la Suisse est faite de 26 cantons, la Confédération, et que la fiscalité est du domaine des cantons, pas de la Confédération. Donc ces avocats négocient avec les différents gouvernements cantonaux ce qu'on appelle des forfaits fiscaux. C'est-à-dire, le fuyard français en Suisse paye une somme qui est négociée. Là, il n'y a ni contrôle, ni rien du tout, mais négociée. Les sociétés multinationales, c'est la même chose. Ils payent un forfait, c'est-à-dire une somme globale qui est négocié entre le directeur des finances du canton de Vaud, de Fribourg, de Genève, etc., et l'avocat du fuyard. Et la concurrence joue, évidemment, entre les différents cantons. Si le canton de Genève n'accepte pas une somme très très basse, une somme globale à payer pour solder tout compte pour le fuyard, eh bien l'avocat du fuyard va à Sion. Le conseiller d'État chargé des finances à Sion offre une somme moindre, et si ce n'est pas suffisant pour le fuyard, il n'est toujours pas content, il va à Lausanne et Broulis, le conseiller d'État connu pour sa complicité permanente avec l'évasion fiscale française, ben Broulis offre une somme encore plus modeste. Et finalement, l'évasion fiscale, grâce au forfait, aboutit à une libération de tout impôt significatif.
Et ce forfait fiscal, comment on peut lutter contre ça finalement ?
On ne peut pas. La population a voté contre, puisque la classe dirigeante genoise, qui est totalement corrompue par les banquiers, totalement infiltrée par les banquiers, a fait placarder des affiches, a payé des journalistes, a fait une campagne à coups de millions pour dire « Ah, le fisc suisse va perdre de l'argent si le forfait fiscal, l'institution forfait fiscal est abolie. » C'est évidemment un mensonge pur et simple, parce que le forfait fiscal, c'est totalement honteux pour un citoyen de Genève comme moi. Ça me fait honte, parce que ça signifie qu'on organise le pillage du fisc et de l'économie française. Et la France, non seulement est notre voisin, mais une grande, grande démocratie vivante, où la Suisse romande est le premier partenaire économique de la France. Et la République de Genève, par exemple, ne pourrait fonctionner dans ses institutions essentielles, d'ailleurs y compris les banques privées, hein, qui ont besoin des informaticiens, des employés français, sans les 60 000 frontaliers qui travaillent sur le territoire genois. Et face à ce pays-là, à cet État voisin, ami, Nous tolérons que les banquiers suisses opèrent un sabotage permanent.
«
Jean Ziegler. On le retrouvera demain. Demain, suite de l'exil fiscal ou le martyr des riches, un reportage de Charlotte Perry. À lire les bouquins de Ziegler sur cette question, La Suisse lave plus blanc, qui a déjà pas mal d'années, mais qui n'a pas dû beaucoup bouger. Et puis un livre d'Antoine Payon qui vient de sortir, ces 600 milliards d'euros qui manquent à la France. Et puis le dernier bouquin de Jean Ziegler, Destruction massive, géopolitique de la faim au seuil. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires et nous demander du conseil si vous voulez vous évader fiscalement. Vous pouvez le faire également sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi notre page Facebook, la page Facebook de Là-bas si j'y suis. Guillaume Roux et Alexandre Chenet étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chopton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
8 villes, 8 semaines, 8 terrains de campagne sur France Info. Chaque vendredi, France Info installe son studio dans une ville de France. Des rendez-vous pour débattre des thèmes de la campagne avec invités et reportages. Terrain de campagne, vendredi à Marseille, de 8h30 à 9h30 et de 17h à 19h sur France Info et franceinfo.fr.
France Info, une radio de Radio France.
Pile poil 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis, la suite. Laetitia Gaillet, les infos. Salut.
Dans les échos de la campagne présidentielle, François Bayrou rallie aujourd'hui les ralliements à François Hollande et plus précisément ceux issus des rangs centristes, chiraciens ou villepinistes. Le candidat du Modem les a comparés à la transhumance des troupeaux d'ovins au changement de saison. Quand on change de saison, dit-il, on change de pâturage. Et dernier ralliement en date, celui de Bernard Brun, ancien collaborateur de Raymond Barre. Ce qui fait dire à Valérie Pécresse ce matin au sortir du Conseil des ministres, l'ouverture telle que Nicolas Sarkozy l'a voulu en 2007 n'était pas du bluff. Référence donc à l'entrée au gouvernement de Fadela Amara de Martin Hirsch. De son côté, Jean-François Copé se dit indigné, triste. Le secrétaire général de l'UMP trouve cela même indécent. Toujours dans la campagne, sur le site internet de la Voix du Nord, Nicolas Sarkozy assure, lui, que l'usine Sevelnor, qui produit des fourgonnettes pour PSA et Fiat, va s'en sortir. PSA et Toyota discuteraient actuellement d'un accord pour y produire des véhicules militaires. Sevelnor emploie 2800 personnes. Le président candidat, toujours lui, qui a fait une autre annonce à l'issue de son déjeuner ce midi avec le nouveau président sénégalais, Macky Sall, à l'Élysée. La France et le Sénégal ont signé aujourd'hui un nouvel accord de défense ainsi qu'une convention de prêt montant 130 millions d'euros. À 4 jours donc du premier tour, les demandes de procuration vont bon train, vacances scolaires obligent. En revanche, les Français devraient être plus civiques au second tour, car malgré les vacances qui ne seront pas terminées pour tous, malgré le pont aussi du 8 mai, une étude pour un site de location de vacances en ligne assure aujourd'hui qu'il y a moins de demandes pour ce week-end du 7 mai. La Turquie a intercepté aujourd'hui un cargo des Bermudes. Le navire était soupçonné de livrer des armes à la Syrie. La Syrie où, malgré le cessez-le-feu imposé par le plan Annan et l'arrivée des observateurs de l'ONU, les combats se poursuivent encore aujourd'hui à Homs et dans la province d'Idleb. Par ailleurs, des coups de feu ont été tirés dans la ville de Erbin, près de Damas, où se sont rendus justement des observateurs de l'ONU. Une nouvelle équipe de 11 personnes a été envoyée aujourd'hui sur la plateforme Total au large de l'Écosse. Elle doit préparer les travaux de colmatage de la fuite de gaz détectée fin mars. Deux options sont toujours sur la table, l'injection de boue ou le forage de puits de secours. ArcelorMittal va réduire sa production à partir du 1er mai prochain sur le site de Dudelange au Luxembourg. Selon les syndicats aujourd'hui, la direction assure que les carnets de commandes de produits électrozingués sont quasiment vides. La Cour européenne des droits de l'homme a débouté aujourd'hui Eternit. La société contestait la maladie professionnelle d'un de ses employés. Ce Français est mort en 2006 après avoir travaillé pendant près de 40 ans pour cette entreprise qui produisait de l'amiante. Il pleut actuellement sur la région parisienne, des gouttes d'eau dont aimeraient bien bénéficier les Bouches-du-Rhône. Le département vient d'être placé aujourd'hui en vigilance sécheresse. La préfecture appelle la population à limiter sa consommation d'eau. Pardon. Dans le tournoi de tennis de Monte-Carlo, l'Espagnol Nadal rejoint Beneteau, Simon, Djokovic, Dolgopolov, Tipsarevic et Kukushkin, ainsi que Thomas Berdych en 8e de finale. Voilà donc pour les derniers résultats du tournoi de tennis sur terre battue de Monte-Carlo. Pour l'instant sur France Inter, vous écoutez France Inter 16h03.
Dimanche, élection présidentielle, premier tour. La rédaction de France Inter se mobilise et vous propose une soirée spéciale.
Dès 18h30, les premiers enjeux.
Hélène Jouan.
Quelle participation pour ce premier tour de la présidentielle 2012.
Frédéric Barrère.
Retrouvez Jean-François Aquili et ses éditorialistes.
20h, quel duel pour le second tour. Deux visages, deux noms que nous vous dévoilerons.
Directs et reportages, analyses et commentaires.
Et des débats avec nos invités. Joie et déception du soir, quelle consigne de vote, quelle dynamique pour le second tour.
Élection présidentielle, premier tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter. La différence.
Je vous cède la place, Frédéric Lodet. Bonjour.
Moi, je vous salue, Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité, parce qu'on a eu les sondages, ils sont excellents, 22 000 auditeurs de plus que l'année dernière à la même époque pour le Carrefour de l'Odéon, et puis c'est meilleur aussi que les autres références, puisque en novembre-décembre 2011, ben on avait un peu moins aussi, là, cocorico, ouais, faut le dire, quand c'est bien, on est content, et puis surtout, je rappelle que France Inter permet des exceptions culturelles en face, quelquefois d'émissions comiques, très bonnes d'ailleurs, dans d'autres radios concurrentes et néanmoins amies. Mais enfin, faire passer la musique classique, c'est aussi le rôle d'une radio généraliste de qualité. On est très heureux de cette belle chaîne et de votre présence, donc. Révision, c'est le jour des enfants. Bon, il y en a qui sont en vacances, et puis il y en a qui sont simplement en repos. Mercredi, révision des instruments avec la flûte, pour commencer, habile. La flûte traversière, qui est aussi conçue comme instrument à bec. On le sait, qui a des qualités de vélocité, qui est transparente, cristalline, etc., etc. Bref, on aime la faire gambader, on aime aussi l'entendre chanter. Voici le presto de la troisième sonate pour flûte et piano de Carl Maria von Weber. Thank you. presto d'une sonate, la troisième, pour flûte et piano, originellement pour violon et piano, de Carl Maria von Weber, interprétée à la flûte par Emmanuel Pahut avec Éric Lesage au clavier. Et voici le trombone, sous diverses formes, qui déjà, du temps des Romains, paraît-il, évidemment, n'était pas tout à fait comme celui d'aujourd'hui, faisait peur à l'ennemi dans les armées. Et puis à la Renaissance, le trombone a été très important, il a soutenu notamment les offices religieux, et après ça, il s'est magnifié, il a doublé les voix dans les œuvres de Gabrielli, de Monteverdi, de Jean-Sébastien Bach dans la cantate de Pâques, par exemple. Et puis, il est devenu un instrument tout à fait indispensable, aussi bien dans l'orchestre symphonique que dans le jazz. Il a pris différentes formes, le trombone. Généralement, il est à coulisses. Il a été à piston aussi, un peu plus rarement. Bref, un instrument riche et qu'on a un peu sous-estimé, pensant qu'il pouvait simplement avoir de la force. Mais il peut aussi être chantant, être romantique parfois. Et sous sa forme un peu ancienne, baroque, appelée sac-boute, dans le sens où la coulisse qui